Divergence FM, l'interview.
Malo de Pincé, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation dans cette interview société. Vous êtes le coordinateur du projet HUT, Human at Home Project. On en entend parler en ce moment dans le cadre de notre partenaire, le festival Métropolisme, qui se déroule à la Halle Tropisme jusqu'au 13 octobre prochain et avec lequel, donc, je le répète, nous sommes partenaires. Le projet HUT, c'est l'habitat intelligent de demain, authentiquement humain. C'est le sous-titre que l'on trouve sur votre présentation. En quoi consiste-t-il exactement ?
Bonjour. Alors, nous, on parle plus exactement d'un habitat connecté, pas forcément d'un habitat intelligent, parce que ça relève de l'oxymore et ça suppose que celui qui l'occupe est peut-être moins intelligent et qu'on transférerait à des choses notre capacité à réfléchir, à faire des choix. Or, nous, ce n'est pas notre objet. Nous, notre objet, c'est de réfléchir aux conditions dans lesquelles l'habitat demain, qui serait un habitat ultra connecté avec beaucoup de capteurs et beaucoup d'interfaces, d'interactions, serait pertinent pour notre bien-être, pour le vivre ensemble. Et donc pour faire ça, on a construit un objet d'étude, qui est en quelque sorte ce que j'appelle souvent une chimère, c'est-à-dire un appartement qui est équipé de tous les capteurs possibles aujourd'hui, et puis chaque année on fait évoluer le système parce que la technologie évolue, pour voir comment les habitants vivent à l'intérieur, quelles sont les données que l'on peut capter, quelle est... effet cela sur la vie privée, sur l'atteinte à l'intimité, et puis quel service aussi, en retour, ça rend.
Alors concrètement, ça veut dire qu'il y a des appartements dans notre territoire équipés de ces capteurs et que des gens ont accepté de participer à ce projet ?
Alors aujourd'hui, il y a un appartement.
D'accord.
Aujourd'hui, il y a un appartement parce que c'est un système qui coûte relativement cher et qu'on ne peut pas équiper 10, 20 appartements. Et on a effectivement deux occupants chaque année qui se relaient par binôme pour habiter dans cet appartement en acceptant bien sûr l'expérimentation scientifique. Ils sont informés de tout ce qui est capté, de l'utilisation qui en est faite. Et on prend bien soin, nous, pour les protéger, de faire attention à ce que leur identité ne soit pas révélée et à ce que les données que l'on collecte soient exclusivement réservées à l'équipe de recherche. Ça ne part pas chez des tiers.
Alors, à l'heure de tout ce qu'on entend sur le RGPD, etc., c'est quoi l'enjeu pour demain ? Comment on va pouvoir se garantir du fait que ces données-là ne seront jamais vendues, par exemple ?
C'est une réflexion complexe, on va dire. Et il me semble qu'on n'a que 10 minutes pour en parler. Je vais essayer de faire synthétique. Je crois que la première difficulté, c'est avoir conscience des données qui sont collectées. Et là, il y a une difficulté parce qu'effectivement, on a en Europe l'une des réglementations les plus protectrices. Et ça, c'est une excellente chose. Peut-être faudra-t-il la faire évoluer. C'est une des questions que pose le projet sur cet aspect données personnelles. Parce qu'on réalise que si on signe au départ, quand on intègre un appartement ou quand on achète un capteur, un acquiescement à la captation de données, on sait que dans le temps, cette acceptation s'efface parce que peu à peu, on oublie. Et une fois qu'on a oublié, le comportement n'est peut-être pas le même et la conscience d'être observé n'est pas la même, voire même elle disparaît et on n'a pas la même protection. Donc nous, à HUT, on travaille sur des outils qui permettent de faciliter l'accès aux données, d'inciter à l'accès aux données pour que nos occupants soient conscients aussi de la captation de ces données.
Ça ne peut pas aller sans une éducation ?
Non, mais rien ne peut aller sans éducation. Si vous voulez être un citoyen actif et être conscient des réalités, des difficultés de la vie, il faut une éducation pour évoluer effectivement avec la société. Donc HUT a aussi un rôle d'information à l'égard des citoyens et des politiques.
13 laboratoires de scientifiques qui travaillent à ce projet, des souteneurs du projet, pour la plupart institutionnels. Comment se passe la coordination justement d'un tel projet ?
Très bien. Très bien, même s'il y a évidemment quelques difficultés qui tiennent d'abord entre les chercheurs eux-mêmes, au cloisonnement des disciplines, au langage des chercheurs qui n'est pas le même d'une discipline à une autre. Mais on y travaille, on multiplie les réunions et finalement au sein de HUT, il y a une expérience de l'interdisciplinarité qui s'est construite par la réflexion sur les objets et non pas sur des concepts, sur des généralités. On est très concret et ça nous permet de travailler ensemble. Et puis, effectivement, parmi les soutiens, on a des soutiens très divers. On a des soutiens partenaires en quelque sorte qui sont les entreprises avec qui le travail est encore différent parce que, par exemple, elles n'ont pas la même temporalité. Elles ont des exigences en termes de retour sur investissement, non pas pour leurs produits, mais pour analyser le marché, savoir quelles sont les tendances qui sont beaucoup plus, ces délais sont beaucoup plus courts que nous. Donc chacun s'adapte. Eux, ils acceptent des délais un peu plus longs. Et nous, on accepte des délais un peu plus courts. Et puis, on a des soutiens aussi qui sont des collectivités territoriales. La métropole de Montpellier est très impliquée et elle nous fournit une expertise et sa propre expérience de la ville connectée. On a la région Occitanie aussi, qui, elle, est un soutien financier. Important. Et donc, ça se passe très bien avec des échéances. Nous, on s'est engagé à fournir des résultats intermédiaires tous les ans et on s'y tient.
Et il dure combien de temps, ce projet ?
Alors, ce projet, il est financé pendant encore 2 ans. Donc, je peux vous garantir qu'il dure encore 2 ans, c'est-à-dire que jusqu'en septembre 2021, on est certain qu'il existe et on part à la recherche de nouveaux financements pour l'après, parce que la question, à notre sens, des objets connectés, des appartements connectés, se posera encore dans 2 ans.
Quels pourraient être les financeurs de demain ? Parce que je pense que ça donnerait une bonne idée sur, suivant qui finance, forcément, on ne va pas chercher les mêmes choses.
Nous, on est plutôt à la recherche de partenariats et de financements publics pour garantir l'indépendance de HUT de manière structurelle. Donc, il y a pour ce faire des fonds de l'État sur des contrats de plan, des plans d'investissement. Il y a des fonds européens que l'on recherche également. Et puis, il y a parfois des partenariats avec les partenaires d'entreprises sur des projets concrets. Si leur projet s'accorde avec la philosophie de HUT, qui est une philosophie de protection de l'individu, jusqu'à présent, nos partenaires ont parfaitement compris et ils étaient à 100% dans cette optique.
Est-ce que l'État garantit, enfin quand je dis l'État, est-ce que les institutions garantissent un quota d'entreprises par rapport aux institutions sur des financements pareils en fait ? Est-ce qu'un jour on pourrait se retrouver avec un projet qui serait plus financé par des entreprises que par des institutions si le projet était mené sur très long terme ?
Théoriquement, ça pourrait. Oui, ça pourrait tout à fait être possible, puisque le principe de la recherche, c'est qu'elle est libre et qu'elle peut aussi chercher des financements privés auprès des entreprises, ce qui n'est pas nécessairement une mauvaise chose. Je pense que c'est même une bonne chose, parce que ça permet de poser la question de l'efficacité économique du projet et puis de son insertion, d'un modèle. Parce que si on construit un pur modèle théorique et qu'on n'est pas capable derrière de concevoir des objets qui correspondent à ce modèle, si les entreprises ne suivent pas, ça ne sert à rien. On aura produit des volumes de papier, mais on n'aura pas fait évoluer les choses.
Quand ce genre de travaux, de projets rencontrent le grand public, je pense à l'interaction avec le Festival Métropolisme, à l'altropisme, sur la ville de demain, qu'est-ce que cela donne pour vous en fait ? Est-ce que vous y gagnez quelque chose ?
Oui, nous, on y gagne une appréciation du public, le sentiment qu'on travaille au bien commun. C'est quand même appréciable de voir que des efforts de recherche sont appréciés par nos semblables. Et puis aussi des questions, des interrogations qui peuvent être portées du style, moi par exemple, j'ai une enceinte connectée chez moi, qu'est-ce que ça implique ? Donc on en parle et ça nous permet d'avoir un retour sur le comportement des utilisateurs. Alors évidemment, ça n'est pas scientifique au sens où on n'a pas un panel représentatif, mais on a quelques pistes des questions qui pourraient se poser aux utilisateurs.
Concrètement, sur le Festival Métropolisme, ce sont les capteurs dont on parlait en début d'émission qui ont été installés dans la halle, c'est ça ?
Alors, dans la halle, c'est un partenariat qui a été fait avec la métropole de Montpellier. Et ce sont des capteurs qui ont été fournis par la métropole avec l'un de ses partenaires pour l'occasion. Mais ce ne sont pas les mêmes capteurs, mais nous, on a des capteurs similaires, notamment sur l'ambiance à l'intérieur, sur la température, sur le niveau de CO2, etc.
Si on se projette dans l'avenir, qu'est-ce que vous voudriez offrir de façon pérenne aux habitants du futur grâce à une énergie pareille mobilisée sur ce projet ?
Là, je rebondirai sur ce que vous avez dit au départ, c'est-à-dire un habitat authentiquement humain, c'est-à-dire l'assurance que la technologie n'est pas appréciée nécessairement comme un progrès, c'est-à-dire que c'est un progrès si on a pesé les services que cela rend en retour, c'est-à-dire que si je prends un capteur et que ce capteur capte justement des données personnelles, ça n'a d'intérêt que s'il y a un service en retour qui est apporté à l'utilisateur.
Merci.
Je vous en prie. Merci à vous.